Voilà, que Dieu soit béni. Donc nous sommes toujours dans les questions récurrentes, questions difficiles et essentielles. Et aujourd'hui, nous commençons par un sujet que j'ai intitulé « La vague du détail ». La logique du détail. Vous savez, l'homme a tendance à vouloir faire du succès, à vouloir de la célébrité. C'est pourquoi l'une des tentations auxquelles Jésus a été exposé, c'était le fait de tomber du haut, du pinacle, du temple, et d'être ramassé par les anges. Comme ça, ça allait lui donner la célébrité, la renommée. Donc l'homme a tendance, il y a certains humains, les humains ont tendance à vouloir de la renommée, du succès, de la célébrité. Et les humains aussi ont tendance à aimer le pouvoir, donc à diriger des gens et à être suivis. Ce qui fait que beaucoup s'inventent des choses pour pouvoir marquer leur époque ou pour pouvoir obtenir du succès ou se faire suivre par des gens. Et dans ce cadre-là, nous assistons à une vague de prophètes. Donc il y a une vague de prophètes qui est en train de sévir, de prétendus prophètes, hein, des prétendus docteurs de la parole, avec des nouvelles logiques. En réalité, ce n'est pas nouveau. Depuis même la première Église, quand elle a commencé, il y a eu toujours des discoureurs, des gens qui créaient des doctrines pour amener les gens avec eux ou pour avoir juste de la renommée. Il faut savoir aussi que ça fait partie de la culture juive. Donc si vous connaissez les Juifs, vous saurez que dans un petit pays comme Israël, il y a beaucoup de partis politiques et des petits partis politiques qui ont parfois même pas des raisons d'exister, mais qui existent pour avoir un poids électoral, un poids dans la société. Et il y a aussi une réalité, c'est que les Juifs aiment beaucoup discuter, beaucoup polémiquer. Ça, c'est une réalité. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que la partie juive, il y a la partie grecque. Vous vous souvenez que quand Paul a parlé à Athènes, Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, il disait que les gens à Athènes aimaient discuter, ils aimaient polémiquer. Donc, l'Église est née dans ces conditions, que ce soit grec ou juive, des gens qui aimaient polémiquer, qui aimaient discuter des idées. Et donc, le problème dont nous parlons aujourd'hui, c'est un vieux problème, la question du détail. Donc, il y a des gens qui prenaient un détail qui en faisait une doctrine. C'est pourquoi les apôtres ont eu à écrire là-dessus pour dire, mais attention, donc nous allons lire dans 2 Pierre 1, ce que Pierre dit, quoi. Dans 2 Pierre 1, 1. 2 Pierre. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, que dit ce verset? Donc, on ne peut pas prendre une prophétie, c'est-à-dire un verset de l'Écriture, en faire une interprétation propre à lui-même. Il faut qu'on considère toutes les autres prophéties, tous les autres versets. Donc on ne peut prendre pas qu'un seul et dire, bon, à partir de ce seul verset, on en fait son interprétation, alors qu'il y a toute la Bible. Donc il faut considérer toutes les prophéties, c'est-à-dire toute la Bible, on ne va pas considérer qu'une seule partie. Donc c'est un avertissement que Pierre donnait aux bien-aimés, puisqu'il y avait déjà à l'époque des gens qui sortaient ce que Pierre et Paul appellent des fables. C'est des fables, des discussions. Par exemple, il y en a qui discutaient sur les généalogies. D'où vient-elle l'apôtre? Quel a été son ancêtre? Ainsi de suite. Voilà. Puisque vous savez, vous-même, vous constatez que dans la Bible, il y a des généalogies. Donc, ça faisait partie de la culture des Juifs d'avoir des généalogies. Et donc nous, dans un endroit, Paul dit, mais c'est dans 1 Timothée. Non, restons dans Pierre, 2 Pierre 1. N'allons pas loin, restons dans Pierre, 2 Pierre 1, 16. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Donc l'apôtre Pierre parle des fables. Donc il y a des gens qui, voilà, discouraient et sortaient toutes sortes de fables. Et l'apôtre Paul, lui, il dit aussi dans 1 Timothée 1, 4, et de ne pas s'attacher, on commence à partir de 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, imaginez que du vivant des apôtres qui avaient vu Jésus, il y avait quand même des courageux qui sortaient d'autres doctrines. Donc, est-ce que ces courageux-là vont avoir peur de nous qui n'avons même pas vu Jésus? Pas du tout. Donc, ils vont toujours les sortir. Donc, s'ils n'ont pas eu peur de Pierre, de Paul et des gens qui ont vu vraiment le Seigneur, qui ont vécu avec le Seigneur, ce n'est pas nous qu'ils craindront pour sortir leur fausse doctrine. Mais nous, nous avons un avantage par rapport au Paul et aux autres, c'est que nous avons la Bible. Donc, le Paul n'avait que l'Ancien Testament. Nous, aujourd'hui, on a un livre dans lequel il y a les deux testaments et tout est écrit clairement, comme il faut. Donc, on peut se baser sur ça pour discuter. Les Pierre et les Paul avaient vraiment besoin d'une grande démonstration de puissance du Saint-Esprit pour les défendre. Voilà. Alors que nous, la Bible, la parole de Dieu, suffit pour nous défendre. Donc c'est pourquoi nous devons bien apprendre cela. Bien sûr que le Saint-Esprit est toujours nécessaire dans sa puissance, parce qu'il y a des gens, on a beau leur lire les versets, ils restent têtus parce qu'ils ont été envoûtés, voilés. Donc on a besoin toujours de la puissance du Saint-Esprit. Mais les Pierre et les Paul en avaient encore plus besoin que nous, parce que n'ayant pas une référence néo-testamentaire, donc du Nouveau Testament, écrite une fois pour toutes pour s'imposer. Donc c'est cela notre avantage. Donc, Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à prendre un détail de la Bible et ils en font une doctrine et ils en font un sujet de division dans l'Église, un sujet à polémique ou à problème. Donc, je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « La Sainte Cène, nous ne devons plus la manger telle que nous mangeons, des petits pains avec juste un peu de vin, la Sainte Cène, ça doit être une de la nourriture. Donc on doit manger à table parce que Jésus aurait mangé à table et ainsi de suite. Nous le savons que Jésus avait mangé à table. Mais, bien aimé, Jésus n'avait pas dit que la Sainte Cène, c'est le manger. Il avait dit que ceci est mon pain et ceci est mon corps. En prenant le pain, il a brisé le pain, il a donné. Il a pris le vin, il a dit ceci est mon sang et il a donné aux autres. Il n'a jamais utilisé la viande ou autre chose pour continuer à dire ceci est mes jambes ou je ne sais pas quoi. Donc il n'a utilisé que le pain pour dire c'est son corps, il n'a utilisé que le vin pour dire c'est son sang. Donc le symbole qui était à comprendre, plutôt la chose qu'il fallait comprendre là, c'est que Jésus allait se donner, c'est son corps qui est donné, et c'est son sang qui coule pour notre salut. Donc c'est ce qu'il voulait qu'on retienne. Ce n'était pas une question de nourriture, c'était une question de pain et de vin. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Comme nous venons de lire dans 2 Pierre 1, ce n'est pas, on ne va pas prendre un point d'une phrase pour en faire une doctrine. Bon, il faut manger de telle manière, il faut manger, boire de telle manière. Donc, nous allons lire ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11 sur la Sainte Cène. à partir du verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Alors, cette partie qu'on vient de lire nous renseigne sur une réalité, c'est que quand la première église a commencé, c'était vraiment un vrai repas qu'ils prenaient. Donc on n'en disconvient pas, c'est la vérité, ils prenaient un vrai repas. Mais Paul nous expose les conséquences. Voilà les conséquences, c'est que il arrivait que l'un a faim, l'autre est ivre. Ça veut dire que l'un a beaucoup mangé, l'autre n'a pas mangé, et l'autre, un, est devenu ivre parce qu'il a bu, l'autre n'a pas bu. Alors, qu'est-ce que dit Paul au verset 22, « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dirai-je ? Vous louerai-je ? En cela, je ne vous loue point. » Donc, qu'est-ce que Paul dit ? Mais pourquoi vous ne mangez pas chez eux ? Pourquoi vous ne buvez pas chez vous plutôt ? Pourquoi vous ne buvez pas chez vous ? Donc, ce que vous faites là est mal parce qu'on s'est réunis pour le repas du Seigneur. Donc, le repas du Seigneur est spirituel. Il n'est pas seulement physique. Il y a une leçon spirituelle dedans. Vous commencez à vous enivrer, vous commencez à faire des excès de table. Il y a un problème. Mangez chez vous. On continue le verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc là, Paul explique que c'est le pain et la coupe qui ont la signification spirituelle. Parce que Jésus a d'abord fait ça avec le pain, ensuite ils ont mangé normalement, ensuite à la fin il fait avec la coupe et il parle encore. Et donc c'est le pain et la coupe qui ont une importance spirituelle. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc qu'est-ce que Paul dit ? Il dit, mais que chacun se juge lui-même. Et avant de manger, donc de prendre le repas du Seigneur, s'il fait ça avec légèreté, il sera jugé. C'est pourquoi il y a des infirmes et des malades. Donc il ne faut pas prendre ça avec légèreté. Il faut savoir qu'est-ce que ça symbolise et prendre cela dans cette logique spirituelle. Et conclusion, verset 33. « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. » Afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc, la conclusion, c'est quoi ? Si vraiment tu veux manger pour la santé, pour la satisfaction du corps, mange chez toi. Et donc, si tu veux faire la Sainte Cène, manger la Cène, il faut que ça soit, ça soit pas pour la satisfaction du corps, ni pour le plaisir de la bouche. Il faut que ça soit dans une logique spirituelle. Donc, Paul insiste sur la logique spirituelle qu'il y a dans la scène. Alors, question. On t'a pas vu, il faut lever la main, oui, oui, voilà.
Donc ça veut dire que c'est pas faux, en fait, ce qu'ils avancent quand ils disent que la Sainte Cène, ça doit être un repas. Enfin, dans le sens où c'est pas un péché s'ils font, si la Bible en parle.
Ah, nous, on ne dit pas que c'est quand quelqu'un utilise ça comme un repas, fait tout un repas autour de ça. Parce qu'il faut comprendre, la Sainte Cène, ce n'est pas le souper, c'est le pain et le vin. Maintenant, si tu fais exactement comme ça se faisait là, gloire à Dieu. Mais dire que celui qui n'a pas mangé, il n'a pas fait la scène, c'est autre chose, c'est pas bon. Parce que le but, c'est le pain et le vin. Ce n'est pas le repas, le souper qui entoure la scène. Ce n'est pas ça qui est important, puisque Paul explique bien que le Seigneur a parlé quand il a rompu le pain, il a parlé quand il a distribué la coupe. Il n'a pas parlé pendant le souper. Le souper, c'est un repas de tout le monde normal. Mais dans tout cet ensemble-là, ils appelaient ça le repas du Seigneur. Mais la leçon, l'enseignement, c'est le pain et le vin. Le souper en lui-même n'avait pas de signification spirituelle. C'était une vie normale. Voilà.
Mais est-ce qu'on peut dire que ça a été modifié alors que, en gros, qu'avant c'était un repas, mais qu'à cause des excès, ça a été modifié?
Ah, voilà. Moi, je ne dirais pas que ça a été modifié. Je crois que, comme Paul vient de dire là, ne venez plus manger pour vous-même. Venez manger que pour le repas du Seigneur. Donc, pour la signification liée à la Sainte Cène. Donc, ça veut dire que les gens allaient manger chez eux. Donc, quand ils viendraient juste pour la partie qui consiste à vraiment se souvenir de la mort et de la résurrection du Seigneur liée au pain, donc le corps qui est donné, et liée au vin, le sang qui a coulé. Maintenant, s'ils soupent légèrement, ils vont le faire. Donc, il n'y a pas de problème, mais le côté nourriture normale n'est plus visé, quoi. Parce qu'avant, c'était comme ça. Ils venaient vraiment manger. Voilà. Donc, vu les déviations et les excès et les conséquences, ils ont voulu se contenter de la partie spirituelle. C'est le pain et la coupe. L'autre partie étant secondarisée, telle que ça méritait. C'est tout.
D'accord, donc on peut dire à quelqu'un, bon bah si toi tu es pour ça de manger ton repas.
Pas de problème, mais aujourd'hui si nous parlons, c'est à cause de ça. Nous ne reprochons pas ceux qui mangent autour de la Sainte Cène. Nous voulons dire tout simplement, on ne comprend pas pourquoi certains en font un tel problème que ceux qui ne mangent pas seraient considérés comme des gens qui n'appliquent pas la Sainte Cène. C'est ça la question du détail. Donc notre intervention est liée à ça. Donc pourquoi faire d'un détail un problème si grave? Voilà, comme si le souper pouvait sauver quelqu'un. Voilà, c'est ça le... Donc le but, c'est de comprendre la signification du pain qui est brisé et de la coupe qui est versée. Le but, ce n'est pas de manger. Le but, c'est de saisir le corps du Christ qui est livré et le retour qui est annoncé et le sang de la nouvelle alliance. C'est ça le but qui est visé. Maintenant, celui qui veut manger, qu'il mange. Mais celui qui veut se contenter que de ces buts-là, du pain et du vin, il s'en contente. Mais vouloir que le morceau soit gros ou petit, moi je crois qu'on commence là. Donc là, c'est ce que j'appelle la vague du détail. Nous sommes dans la vague du détail où les gens prennent un détail. Ils veulent faire de ça la pièce maîtresse de quelque chose. Oui ?
Oui, je voudrais comprendre. Parce que quand Christ a dit que ça a été modifié, normalement, on voit qu'au départ, je me dis, c'est pas l'argent qui a manqué à Jésus, aux disciples, pour faire un grand repas, et qu'il a préféré prendre le pain et le vin. Donc, je me dis, c'est au contraire après que ça a changé, qu'ils ont commencé à faire des grands repas. Et je voudrais savoir.
Non, ce n'est pas que ça a changé. Avant, ils étaient 12. 12, 13, ils se connaissaient très bien. Même admettons qu'ils étaient 50, ils étaient habitués à marcher ensemble, ils se connaissaient bien. Il n'y avait pas la même relation que quand vous commencez une église, vous êtes 200, vous êtes 300, vous êtes 1000. Vous ne vous connaissez pas bien. Et voilà. Donc, dès qu'on sert le repas, pourquoi il y a eu la première nomination des diacres? Parce qu'il y a des problèmes, il y avait des problèmes par rapport à la nourriture. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que le ventre change. Voilà. Donc, donc à cause des problèmes de nourriture, les apôtres ont décidé qu'on nomme des diacres qui s'en chargent parce que les veuves grecques, donc les veuves des juifs grecs, se plaignaient qu'elles étaient moins servies que les veuves des juifs juifs. Voilà. Donc, il y avait un problème de nourriture qui se posait. Donc, c'est pour éviter que maintenant ce problème de nourriture se pose même jusqu'à la Sainte-Cène, ils ont dit, mais non, attention, que chacun mange chez lui. Si c'est pour la Sainte-Cène, qu'on ne vienne que pour la Cène. Voilà.
Oui, en fait, je voudrais, parce que je voudrais comprendre, parce qu'au départ, pourquoi Jésus, lui, il a commencé par le pain, le vin seulement, et après, c'est la nourriture. Nourriture, il y a la viande, il y a autre chose. Quand ils se réunissent pour eux, la Sainte Cène, c'est manger vraiment.
Mais je veux vous donner un exemple. Aujourd'hui, on peut être en train de manger et on parle des choses importantes. Et puis, en parlant des choses importantes, on utilise un symbole de ce qu'on mange. Jésus mangeait normalement le repas de la Pâque. Le repas normal de la Pâque. Il n'a pas fait ça que pour enseigner la Sainte Cène, non, c'était leur vie normale. Donc, il a utilisé ça pour donner un enseignement et il a dit, faites ça en mémoire de moi, mais il a utilisé une scène de vie normale. C'est cela, c'est pourquoi eux aussi, ils ont continué à manger ainsi. Mais il n'a pas fait ça comme une cérémonie spéciale qui était en dehors de la vie normale. Non, d'ailleurs, c'est pourquoi eux aussi mangeaient, parce qu'on mange tous. Voilà.
J'avais loupé.
Voilà. Cette... C'est ça quoi.
Et est-ce que par rapport à ces gens-là, il fait pas la référence le dernier jour où le Seigneur a mangé avec ses disciples?
Oui, mais c'est ça. Pas.
Peut-être c'est par rapport à ça aussi.
Mais c'est ça. C'est la Sainte Cène, c'était ce jour-là.
Comme il a mangé aussi avec... Oui.
Oui, mais c'est une scène de vie normale. Mais il a bien dit que c'est le pain qui symbolisait son corps, c'est le vin qui symbolisait son sang. Il n'a pas dit le milieu là, la viande. Parce que là, sinon on va répéter aussi ce qu'il avait dit. C'est lui qui va mettre son morceau dans le truc, c'est lui qui va me trahir. Donc là, on va commencer à s'asseoir. On dit, bon, celui qui commence le premier, c'est celui qui va trahir l'église. Mais non je crois que... Voilà, oui.
Je pense que c'est par rapport à ça, c'est là où ces gens-là se basent pour dire que donc il faut normalement c'est la nourriture normale que ça représente la Sainte-Cène. Donc c'est à partir de là où et ils parlent aux gens soi-disant que les derniers repas que le Seigneur a pris avec les disciples.
Mais le Seigneur a dit qu'on fasse cela en mémoire de lui, mais qu'on le symbole, le pain et le vin, il n'a pas dit qu'il faut à tout prix manger. Il a dit, vous ferez ce que je viens de faire là en mémoire de moi. Mais sinon, on peut toujours manger ensemble quand on veut. Maintenant, eux, quand le Seigneur est parti, ils ont pratiqué. Ils ont fait donc dans leur repas, ils ont voulu faire aussi cette cérémonie-là pendant leur repas, comme le Seigneur l'avait fait. Mais ils se sont heurtés à une difficulté, c'est qu'il y avait maintenant des gens qui privilégiaient le ventre. Et ils se sont dit, mais ce que nous faisons là est tellement sérieux, si c'était juste pour la communion fraternelle, on ne peut pas gérer le ventre des gens. Mais là, ça commence à créer des problèmes à tel point qu'il y a des infirmes et des malades. Donc il ne faut pas qu'on blague avec ce sujet-là. Donc celui qui veut vraiment manger maintenant, qu'il mange chez lui, et que ceux qui viennent, nous puissions nous concentrer sur la partie spirituelle qui consiste dans le pain et dans le vin. Maintenant, le milieu qui est le souper, même Paul le dit, après le souper, le Seigneur a parlé. Donc il a parlé avant en coupant le pain, mais dès qu'il a fini de manger, il parle maintenant, après le souper, il prend le vin. Donc c'est vraiment précisé, quoi. C'est comme si le souper était entre parenthèses, le pain et le vin, c'était ça les moments spirituels conseillés, en quelque sorte par Paul, d'une manière indirecte. Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut, les gens veulent manger, mais qu'ils mangent. Mais considérez que ceux qui se contentent du pain et du vin, ne font pas suffisamment la Sainte-Cène, je trouve que ça, c'est la logique du détail qui ne fait que diviser et détruire, quoi. Ça ne construit pas, surtout que Paul vient de nous expliquer qu'ils ont eu à faire face à des excès de table et à de l'ivresse, quoi. Voilà. Oui?
Oui, ma question, c'est... quand on parle de la Sainte-Cène, on voit qu'il s'est utilisé du vin et du pain. Maintenant, quand nous on fait la Sainte-Cène, on utilise du jus de raisin et le pain. Est-ce que de là, qu'est-ce qu'on peut tirer? Est-ce que s'il y a, il y a une raison qu'on peut avancer si on a une question comme ça, qu'on nous dit, mais dans la Bible, c'est le pain et le
oui,
vin.
C'est le
mais
fruit
vous
de
utilisez
la...
le fruit de la vigne. Est-ce que on est toujours dans ce même cadre?
Oui, oui, puisque Jésus appelle ça le fruit de la vigne. Le jus de raisin, c'est le fruit de la vigne. C'est le même liquide, hein, après qu'il se fermente, mais c'est le fruit de la vigne.
Okay.
Mais je peux donner aussi, rajouter autre chose. Dans 1 Timothée 5, 23, c'est que les buveurs chrétiens utilisent pour boire. Ils disent, Paul a recommandé à Timothée de boire un peu de vin à cause des problèmes d'estomac. Eux, ces buveurs-là, ils n'ont pas de problème d'estomac, mais ils utilisent ce passage-là. Mais posons-nous la question, pourquoi Paul exhorte Timothée à prendre un peu de vin? C'est que Timothée n'en prenait pas. Parce que si Timothée avait l'habitude de prendre du vin, Paul ne lui dirait pas « prends un peu de vin pour des problèmes d'estomac ». Donc je crois que la même constatation qu'on vient de faire et que Paul nous présente sur les excès de table et l'ivresse liés à la Sainte-Cène, je crois que l'usage du vin a dû se rétrécir avec le temps dans le milieu chrétien. Les chrétiens ont dû de plus en plus ne pas utiliser le vin dans leur repas, de sorte que Paul recommande à Timothée d'en prendre quand même. Donc il ne fallait pas en faire une doctrine, l'interdiction, faire du vin, créer une interdiction du vin. Donc c'est pourquoi nous disons, celui qui fait avec le vin, il le fait, celui qui fait avec le jus de raisin, c'est toujours le fruit de la vigne. Voilà. Maintenant, quelqu'un d'autre pourrait se poser des questions aussi. Là où il n'y a pas le vin maintenant, ni le raisin, on va faire quoi? Donc on ne fait plus de Sainte-Cène. C'est ça la question. Donc, moi, je crois que comme Dieu est venu sauver toute l'humanité, là où il n'y a pas les raisins, on va prendre la boisson équivalente dans ce pays-là. Et là où il n'y a pas le blé pour faire le pain, on va prendre l'aliment équivalent du pain dans ce pays-là et faire la scène. Puisque le but, c'est de symboliser le corps qui est brisé et le sang qui a coulé. C'est ça qui... Il faut aller dans l'esprit. Il ne faut pas rester dans ce qui est littéral. Donc, il faut connaître le sens spirituel des choses. Oui, Gad.
Je ne sais pas si c'est moi qui ai perdu ou pas. Mais vous disiez que même si les autres mangent les repas, ce n'est pas grave, c'est bon, c'est ça?
Oui, oui.
Mais dans mes pensées, je ne sais pas qu'est-ce que vous pourrez dire. Dieu, Jésus lui-même, lorsqu'il partageait, il n'a pas partagé la viande, il a partagé les pains et les raisins. Alors,
et le jus et le vin.
Oui, et le vin. Alors, pourquoi nous, on devrait aller jusqu'au repas que Jésus lui-même n'a pas partagé? Ce qu'il a partagé, c'était les pains. Et pas les repas, pas les viandes, pas les je ne sais pas quoi. Pourquoi nous, on n'utiliserait pas uniquement les pains comme Jésus l'a fait au lieu des autres, comme vous dites que ce n'est pas grave?
Oui, mais Jésus l'a fait autour d'un repas. Mais maintenant, eux, s'ils font Jésus comme Jésus autour d'un repas, il n'y a pas de problème.
Oui.
Mais ils ne partagent pas la viande, donc ils vont faire comme Jésus. Ils partagent le pain, ensuite, ils mangent, et à la fin, ils partagent le vin. S'ils imitent cela, il n'y a pas de problème.
D'accord. Ça veut dire que même s'ils sont à la table avec différentes nourritures, mais eux, ce qu'ils doivent utiliser, c'est uniquement les pains.
La partie spirituelle, c'est le pain et le vin.
Ah, d'accord.
Voilà.
OK.
OK. Maintenant, il y en a même qui disent la Sainte-Cène doit se prendre que la nuit, puisque Jésus a pris ça. Alors, bien-aimé, voilà. Donc, tout ça, c'est ce que j'appelle la vague du détail. Donc, si la Sainte-Cène est faite pendant la journée, donc ça ne compte pas. Il faut faire ça maintenant que la nuit. Mais quand on lit dans les Actes des Apôtres, parce qu'on ne va pas lire tous les versets, donc dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 4, les disciples faisaient la fraction du pain dans les maisons. On ne dit pas que c'était la nuit ou c'était la journée, mais ils faisaient ça dans les maisons. On dit tout simplement qu'ils faisaient ça dans les maisons, quoi. Voilà. Oui, Sarah.
C'est toujours sur la Sainte-Seine, mais sur un autre sujet. Je voulais savoir si quelqu'un a accepté Jésus dans sa vie, est-ce qu'il peut prendre la Sainte-Seine, même s'il tarde à prendre son baptême, parce que selon sa tradition catholique, il a été baptisé bébé, et puis c'est pas encore très clair dans sa tête, est-ce qu'il peut...
Je ne crois pas qu'ils doivent prendre la Seine dans ces conditions-là, puisque la Seine symbolise la mort et la résurrection, la venue du Seigneur. Or, le baptême, c'est aussi la mort et la résurrection. Donc, on ne peut pas refuser une chose et accepter la même chose sous une autre forme.
Est-ce que c'est un péché, alors,
que si la personne prend
de lui-même de prendre la Sainte Seine?
Mais non, il faut qu'on lui explique que non, là, tu es en contradiction avec toi-même. Donc, il faudrait régler cette contradiction-là.
D'accord.
Voilà. Maintenant, si la personne n'est pas encore baptisée, mais elle veut bien se faire baptiser, il n'y a pas de problème pour prendre la Sainte Seine.
Okay.
Voilà.
Merci.
Oui.
Non, en fait, je voulais savoir, parce que souvent, lorsqu'on distribue la Sainte Seine, en fait, ici, après, il y a des personnes qui prennent. Dans ce cas, on ne peut pas vraiment expliquer si on sait que la personne n'est pas convertie.
Ah, donc, je crois que nous devons expliquer avant de distribuer.
Parce voilà. Moi, j'ai déjà fait ça quelques fois, en fait, et tu vois, la personne nécessaire, tu ne peux pas enlever, quoi.
Non, mais si tu es vraiment sûr, tu ne dois même pas servir la personne. Tu sautes la personne. Si tu es vraiment sûr, quoi. Si tu es vraiment sûr. Parce que si c'est un cousin avec qui on habite, on sait qu'il n'est pas converti. Je le saute et je lui explique après. Voilà. Donc, si vraiment on est sûr que la personne n'est pas convertie, on ne lui donne pas. Voilà. Mais cependant, on doit quand même se rappeler, nous qui dirigeons les cultes, de l'expliquer avant, quoi. Oui.
La Sainte Seine, c'est dans le but de se rappeler de la mort et de la résurrection.
La venue
de Jésus. Mmh. Est-ce qu'on peut, condamner une personne qui étudie ça pour, dans sa maison, peut-être pour avoir...
Pour
la guérison, pour avoir une délivrance.
Voilà, les Américains ont amené une vague comme quoi, en faisant la Sainte-Seine à la maison, on pouvait être guéri, puisque ça rappelle la mort du Seigneur, ainsi de suite. N'oublions pas que la Bible dit, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. La Bible ne dit pas, c'est par la mort, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Donc, quand on veut transposer ça à la Sainte-Seine. Et Jésus a bien dit, le sang qui coule, c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc, il n'a pas lié ça à la guérison. Donc, ce sont ces meurtrissures, les blessures de Jésus, les mains et les pieds percés, ce sont ces meurtrissures-là il a porté nos blessures, nos maladies par ces meurtrissures-là. Ce n'est pas par sa mort. Dans sa mort, Jésus a vaincu la mort pour nous amener à une nouveauté de vie. Donc, utiliser ça comme une sorte de fétiche, je déconseille ça aux gens. Je crois que la Bible dit, si quelqu'un est malade, il va voir les anciens, il sera oint d'huile et on priera pour lui, quoi. Donc, on peut imposer les mêmes pour prier pour les maladies, par rapport aux maladies, et faire de la Sainte Seine comme une sorte de fétiche, ce n'est pas bon. Oui ?
Oui, maintenant pour des personnes qui se disent chrétiens, mais qui refusent de prendre la Sainte Seine. Comment
Peut-être qu'ils ne se sont pas encore repentis d'un péché. Donc ce qu'on doit leur dire, c'est que Jésus-Christ peut revenir aussi, quoi. Dans 5 minutes ou dans 10 minutes. Donc vaut mieux quand même être prêt à tout moment. Oui.
C'est par rapport au fait qu'ils disent que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont handicapés ou parce que ils ont reçu un châtiment de Dieu. Et j'avais cru comprendre que justement on avait parlé de ça, que Dieu, lui, il n'envoyait jamais de mal, en fait, il faisait jamais le mal à ses enfants. Et là, je suis assez perplexe.
Dieu faisait pas de mal. Non, il y a un autre verset qui dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Hein. Voilà.
Voilà, c'est, on avait quand même dit qu'en fait Dieu ne provoquait pas le malheur. Il laissait peut-être faire, mais il provoquait pas. C'est-à-dire que c'est pas lui qui fait le mal, c'est il laisse faire Satan, etc.
Ça dépend de.
Mais là, dans le texte, c'est écrit que c'est un châtiment de Dieu.
Il faut qu'on se souvienne du contexte dans lequel on a dit cela. Voilà. Voilà, parce que c'est en fonction du contexte. Je sais pas, parfois on a parlé du péché, il y en a certains qui sont revenus à Dieu ou bien qui ont été sauvés en étant dans le péché, en allant dans des certaines circonstances, qui après, ils ont souffert dans ces circonstances-là, ils sont revenus à Dieu. Bon, ce n'est pas Dieu qui a créé le péché là pour qu'ils puissent se souvenir de lui. Ça reste toujours le diable. Après, Dieu peut toujours intervenir dans le mal pour nous sortir. Il y a aussi le côté policier, dans le sens où on fait ceci, Dieu nous frappe, on fait ceci, Dieu nous frappe. Dieu n'est pas dans ce côté policier là. Voilà. Donc c'est vrai.
Mais justement, et c'est là où j'ai l'impression que si on prend la Sainte Cène de façon indigne, Dieu nous frappe. Et c'est ça en fait qui me fait un peu.
Parce que ça a une portée spéciale. Ce n'est pas la même chose comme les autres péchés. Donc c'est spécial parce que la Sainte Cène résume notre salut. Donc en quelque sorte, quand on fait ça à la légère, on renie toute l'œuvre du Seigneur et on se retrouve livré à nous-mêmes. Or, le jugement a été ôté de nous à cause de l'œuvre du Seigneur. Maintenant, la Sainte Cène, quand on l'attaque, donc en quelque sorte, la chose qui nous protège du jugement du Seigneur est ôtée. Quoi. Voilà. C'est spécial quand même, la Sainte Cène. C'est dans ce sens-là.
Et justement, sur ce sujet-là, moi, j'ai jamais eu connaissance justement d'une personne qui aurait été frappé de ça et puis qui s'est dit qui se serait repenti parce que elle aurait pris la Sainte Cène de façon indigne et
moi non plus mais moi non plus mais moi je crois que c'est dû au fait que nous vivons une époque où ce que Dieu frappe n'est pas trop apprécié à entendre et donc les gens trouvent d'autres raisons pour justifier leur bobo qu'il serait frappé par Dieu, par négligence ou par distraction par rapport à la Sainte Cène. Donc ça, c'est une question d'honnêteté. Moi non plus, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais entendu quelqu'un avouer ça, mais je crois que la Bible est vraie. Et sûrement, il y a des gens qui subissent certaines choses, des maladies ou des infirmités, à cause du fait qu'ils prennent à la légère la Sainte Cène. Voilà. Après,
et puis une dernière petite question, mais ça c'est un détail aussi. Comme la Sainte Cène, c'est le prolongement de la Pâque, et que la Pâque avait été instituée de façon annuelle, est-ce que y a quelque chose qui fait qu'on peut...
Ça qu'une fois.
Voilà, pourquoi on le fait plusieurs fois? Parce que le Seigneur, il a dit, à chaque fois que vous faites ça, faites-le en mémoire de moi. Donc j'avais l'impression que à chaque fois que vous faites la Pâque, maintenant vous faites la Pâque en mémoire de moi.
Oui, mais Paul nous explique dans 1 Corinthiens 5 que notre Pâque maintenant, c'est le Seigneur. Ce n'est plus un jour.
Ouais. Donc voilà. Ça veut dire qu'il n'y a plus de jour, il n'y a plus...
Voilà, c'est le Seigneur lui-même qui est notre Pâque. Voilà. Donc on peut célébrer cette Pâque-là puisque le Seigneur est vivant à tout moment. Voilà, c'est ça la différence entre la lettre, la loi et l'esprit, où l'esprit est vivant à tout moment. Alors que la lettre, la loi, donne des repères fixés. Alors, avec l'esprit, il est vivant à tout moment et on peut agir. Voilà. Ok. Un autre détail, c'est que il y a aussi des gens qui polémiquent pain azim ou pas. Donc, est-ce qu'on peut faire ça avec le pain de Lidl ou bien... À la pile. Voilà. On peut faire ça avec le pain, avec le vin ou sans le vin. Donc moi, je répète encore, ce n'est pas ça le plus important. Parce que Jésus, comme c'était un repas de Pâques, il a dû faire ça avec le pain sans le vin. Donc il y a des gens qui tiennent à ce que ça soit du pain sans levain. Donc moi, ma position personnelle, c'est quel que soit le pain, le plus important, c'est le symbole de le corps brisé. Ce n'est pas, le vin ou pas le vin. Voilà, oui.
Qui a droit de partager la Sainte Cène ou bien à la maison?
Qu'est-ce que tu entends partager?
Distribuer.
Ah, distribuer.
Oui.
Bon, rien n'est fixé. Hein.
Est-ce qu'à la maison, un chrétien peut se permettre de le faire dans sa famille?
Oui.
Ah, d'accord.
Oui, oui. Il y en a même qui font ça seul, quoi, pour se guérir d'une maladie. Donc, un pasteur américain lui envoie un petit gobelet avec une bouteille de vin. Mais c'est une réalité, hein. On lui poste ça. Donc, vous savez, maintenant, aujourd'hui, comme c'est, les Américains sont très forts côté argent, donc là, ne badinez pas avec eux. Donc, ils savent qu'il y a des gens qui ne vont pas dans les églises le dimanche. Ils leur proposent le culte à la maison. On va te poster ta dose de vin et ta petite coupe que tu vas acheter et tu te prends ta scène à la maison. Et malheureusement, il n'y a pas de communion fraternelle, c'est dans le désordre, quoi. Voilà. Et donc, on a dit, il y en a qui sont dans les logiques de la nuit ou pas. Et puis, je crois que c'est tout pour la scène. Maintenant, nous arrivons à une question rapide. Je dis que ça sera rapide, à moins que... Il y a une secte encore qui dit que Jésus a été baptisé pour nous une fois pour toutes. Donc, on n'a pas besoin de se faire baptiser. Donc, je dis bien que ça, on peut expédier cette question très rapidement en lisant Matthieu 28, 18, 20. Le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui donne l'ordre de baptiser, quoi. Voilà. Jésus peut nous dire de baptiser les gens alors qu'on n'a pas à baptiser les gens. Donc Matthieu 28, 18 à 20, c'est dit là. Donc baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc 16, 16, c'est dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est vraiment quand même les instructions du Seigneur. Dans Actes des Apôtres 2, 38 et 3, 19, l'apôtre Pierre demande aux gens de se faire baptiser aussi. Non, dans 2, 38 plutôt. Il demande aux gens de se faire baptiser aussi. Donc, et dans Actes des Apôtres 8, 26, on baptise quelqu'un après Jésus. Donc, voilà. Donc là ce n'est pas une question compliquée, mais c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel. Mais là, nous, on dit qu'on expédie ça en deux temps, trois mouvements. Mais face aux gens qui tiennent à cette doctrine-là, ben, ce n'est pas en deux temps, trois mouvements. Hein. Ça sera avec la prière et la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont bloqués, ils croient en quelque chose, ils refusent d'entendre autre chose. Voilà. Et puis, il y a une question qui nous a été posée. Y a-t-il une explication aux différentes crises cardiaques qui touchent les joueurs de foot? Est-ce la fin d'un contrat satanique ou est-ce simplement dû aux exigences de la pratique d'un sport de au niveau? Voilà. En examinant certaines informations, on se rend compte que, bon, il y a quand même un pourcentage d'environ 400 personnes qui vivent ça chaque année en France. Donc c'est quelque chose médicalement qui serait dû à des anomalies, peut-être légères, mais des anomalies quand même dans le cœur de ces personnes, mais qui n'ont pas été découvertes à temps. Et puis, bon, un jour, il y a une conjonction de pépins qui fait finalement que la personne subit une crise cardiaque et meurt. Et après, quand on fait l'autopsie, on se rend compte qu'il y avait une anomalie, ou parfois pas, mais en général, il y avait une petite anomalie. Donc, c'est pourquoi les gens... On commence à installer des défibrillateurs là où les gens font du sport. Maintenant, on ne peut pas écarter le fait que certains contrats sataniques ont parfois ce genre de conséquences. Voilà. Donc, mais nous disons ce que la médecine dit, mais nous n'écartons pas le fait que certains contrats sataniques puissent avoir de telles conséquences. Voilà, oui.
Mais est-ce que ça peut être dû aussi à comment dire, la théorie, enfin je ne sais pas si c'est un peu sa théorie, mais du fait du rendement, c'est-à-dire que maintenant, il faut être beaucoup plus professionnel et être apte tout le temps. Donc on peut aussi demander aussi beaucoup plus, de fournir plus d'énergie, et en fournissant aussi plus d'énergie, on sait très bien qu'il y a des palliatifs. Enfin, pas des palliatifs.
Des dopages, quoi.
Voilà, des dopages. Mmh. Est-ce que ça peut être aussi dû à ça?
Il y a aussi... Mais les médecins... Bon, vous savez, c'est l'industrie aussi. Hein, c'est l'industrie de l'argent. Les médecins ne veulent pas avouer qu'il y a le problème aussi du dopage. Ils disent que les études ne le confirment pas. Voilà. Donc, enfin, n'est pas ne le confirme pas, ne le prouve pas. Donc, c'est... alors que, bon... Tous les autres, le public, vous et nous, beaucoup de gens, estiment que le dopage y est aussi pour quelque chose, puisque le dopage te permet de faire beaucoup plus d'efforts qu'en temps normal. Donc ton cœur va travailler plus que parfois il en est capable. Mais comme il y a des substances dopantes, donc il arrive à le faire, mais et s'il craque, ben, on meurt. Voilà, donc c'est... beaucoup de gens supposent qu'il y a le dopage dedans aussi, mais... Comme il y a l'industrie de l'argent, les médecins ne veulent pas admettre aussi totalement que c'est ça, quoi.
Parce qu'on a retrouvé parfois des sportifs, pas seulement des footballeurs, mais des sportifs avec des cœurs gros comme des cœurs de...
Voilà,
de
voilà, comme un Brésilien, oui, oui, voilà. Un cœur de 600 grammes. Hein.
Voilà.
Voilà, donc c'est... Mais ils ont mis ça sur le compte de l'anomalie. Voilà. Voilà, et... Mais cependant, beaucoup pensent que le dopage y est pour quelque chose. Donc c'est... C'est ça aussi la réalité. Mais on ne peut pas nier des raisons surnaturelles qui sont dues à plusieurs contrats sataniques ou à des malédictions que peuvent, des sorts qu'on peut lancer sur certaines personnes. Ce sont des réalités. Autre question, peut-on avoir du succès sans passer par des contrats sataniques ou être élevé par le Seigneur? Peut-on avoir du succès simplement grâce à des qualités intrinsèques? Voilà, donc est-ce qu'on peut avoir du succès rien que par la force de l'homme, sans qu'il y ait une intervention, ni de Dieu, ni du diable? Moi, je dis oui, mais se maintenir dans le succès, sans les deux là, c'est impossible. Arriver au succès sans les deux, c'est possible. Rien que le talent naturel qu'on a dès sa naissance, ça peut nous amener au succès. Mais s'y maintenir sans les deux, c'est impossible. Donc, il y a un stade où on est obligé de choisir l'un d'entre eux. Bon, maintenant, comme dans beaucoup de choses du monde, Dieu n'est pas dedans, donc on est amené à un stade de choisir le diable, puisque Dieu ne va pas te soutenir dans le mannequinat, par exemple. Il ne va pas te soutenir dans la boxe. Voilà, donc à un certain moment, donc on est obligé de choisir le diable. Pourquoi? Parce que dans toute activité, il y a de la concurrence. Dans toute activité, il y a de la concurrence. Dans toute activité, il y a des éléments extérieurs qui interviennent. Par exemple, on peut avoir une belle voix, mais il faut qu'on soit enregistré dans un studio. Il faut qu'on ait un producteur. Il faut qu'on ait une maison qui distribue. Donc, ce n'est pas la voix qui va te donner le succès. Il faut que ce soit une maison qui est forte dans la distribution, qui distribuera le CD. Donc, tout ça va ensemble. Donc, aujourd'hui, donc, un talent seul ne peut pas tout faire. Donc, il y a tout un ensemble de d'activités autour qui ne sont pas gérées par la personne qui a le talent. Et donc, comme il est écrit dans 1 Jean 5,19, le monde entier gît sous le pouvoir du malin, donc est dominé par le malin. La plupart des secteurs du monde sont dominés par le diable. Donc il va faire en sorte de que tous ceux qui veulent avoir un certain succès dans ces choses-là passent par lui. Mais il peut être surpris, un talent qui sort sans passer par lui, mais il cherchera toujours à rattraper la personne. Donc c'est pourquoi beaucoup de couturiers sont homosexuels, puisque le secteur est géré par les homosexuels. Donc, si on peut germer comme ça sans eux, mais s'y maintenir, eh bien, on aura affaire à eux. Alors, je vois mal un homme sans la force du diable ou de Dieu combattre des gens qui ont le diable avec eux. C'est impossible. Donc, c'est cela, quoi. Oui.
Je veux juste savoir, quand tu dis qu'on peut avoir
du succès... Tu peux parler fort.
Quand tu dis qu'on peut avoir du succès sans l'aide de Dieu ou sans l'aide de l'ennemi, je ne comprends pas, parce que si tu as un don, ça vient de Dieu.
Oui, donc à la base, ça vient de Dieu, mais il n'y a pas Dieu qui t'a soutenu pour que tu aies du succès. Voilà, tu as utilisé ce que tu avais. Voilà, c'est dans ce sens-là. Oui.
Dans le cadre, bon, là tu as parlé tout à l'heure des voix. Bon, c'est vrai que là, au niveau de la voix, c'est soit on l'a, soit on ne l'a pas. Mais par exemple, dans le cadre d'une activité physique, on peut voir qu'il y a certaines personnes qui vont être très fortes, qui vont avoir un don, mais qui, comme par exemple Lionel Messi, mais qui vont avoir une anomalie, entre guillemets, ou bien ils vont être amoindris physiquement. C'est-à-dire que lui, Lionel Messi, par exemple, était trop petit, on est obligé de lui donner des hormones. Mais lui, par rapport à d'autres personnes qui vont se doper, malgré son don, il va peut-être ne pas éclore, il va peut-être ne pas exploser parce que d'autres se dopent. Donc, ce qui fait que son succès, en fait, ne va pas, enfin, son talent ne va pas aussi exploser. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je
n'ai pas compris.
En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont des talents intrinsèques. Mm-hmm. Mais à partir du moment où il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce talent-là, mais qui se sont dopées pour acquérir une certaine performance, celui qui a le talent intrinsèque, on ne le voit plus.
Oui, oui, donc ça prouve qu'il y a bien des paramètres qui ne sont pas... Je prends l'exemple simple du cyclisme, hein. Donc les médecins, j'ai entendu un médecin à la télé dire clairement, puisque le journaliste lui a dit, soyez clair, à partir de quel classement on peut savoir que quelqu'un est dopé au Tour de France? Il a dit à partir du 10e, donc du 1er au 10e, soyez certains qu'ils se sont dopés. Voilà, soyez certains qu'ils se sont dopés. Donc un homme qui a un bon souffle, mais qui doit se battre contre les gens qui se dopent, ben il ne pourra pas. Donc c'est là que, quelque part, il va lui aussi utiliser le dopage, mais le dopage, c'est le diable. Donc on ne peut pas dire que voilà, il n'y a pas que le fétiche, hein, voilà, cette irrégularité-là, c'est quand même toujours le diable. Et donc on en voit les conséquences aussi par la suite. Donc c'est cela. Après, il y a toutes sortes de flèches que les concurrents s'envoient entre eux. Voilà, il y a... On ne va pas dire que c'est seulement en Afrique, c'est partout, c'est dans le monde entier. Donc il y a la concurrence, il y a la lutte magique, hein, dans le monde entier. Et c'est pourquoi, d'accord, on peut arriver au succès sans Dieu, dans le sens où il ne nous a pas soutenus directement, sans le diable, mais s'y maintenir, c'est impossible. Donc on doit être soutenu par l'un d'entre eux.
J'ai une autre question un petit peu dans ce sens-là. Parce que là, tu as parlé de l'Afrique. Effectivement, bon, c'est connu qu'il y a les gris-gris, etc. Mais comment se fait-il qu'une équipe africaine n'ait jamais gagné la Coupe du Monde ?
C'est que les autres en ont aussi.
Donc, ils ont un dopage à eux.
Non, donc c'est-à-dire que si...
C'est un gris-gris à eux qui...
Parce que nous, on croyait que... On se disait, mais les Indiens sont les plus forts côté magie, mais ils ne gagnent jamais au foot. Donc, voilà. Donc, ça montre qu'il y a toujours deux parties qui fonctionnent. Il y a la partie réelle du talent et il y a la partie magique. On ne peut pas, quand même, que par la magie, battre les autres, quoi. Voilà, donc il y a, le diable n'est pas tout-puissant, à la différence de Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu peut faire qu'un enfant de 4 ans batte un adulte de 25 ans. Ça, c'est Dieu. Mais Satan n'a quand même pas cette possibilité-là. Donc, il est limité. Donc, il a besoin d'une base humaine qui est déjà là pour, comme le dopage, faire réveiller cette base-là. Le dopage, même... N'importe qui va prendre ça, il ne va pas gagner forcément. Voilà. Dieu, lui, il peut faire ça, mais le diable ne peut pas. Donc le diable agit comme le dopage. Il a besoin d'un minimum qui est déjà là, que lui, il va doper. C'est ce qui arrive. Donc, et ça, nous constatons ça facilement en Afrique, puisque ce n'est pas caché. C'est clair, mais que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, tous, ils utilisent cela. Moi, je prie pour la délivrance d'un bien-aimé qui est suisse, mais il me dit, lui n'a pas été à l'équipe nationale ni dans un club de première division, mais à faible division, ils utilisaient tous la magie. Ils allaient voir les magiciens, tous. Donc ce n'est pas une question d'Afrique, c'est que nous vivons en Occident, comment dire, un blackout là-dessus. Donc on se tait, mais c'est une réalité vécue aussi ici. Hein. Donc les gens vont consulter pour tout et pour rien. Les Didiana, tous ces gens-là avaient des voyantes. C'est connu, Mitterrand avait des voyantes, Chirac des voyantes. Donc Chirac allait même au Sénégal voir un marabout. Donc, mais dans le pays, il y a un silence pour faire comme si le diable n'existait pas. Quoi. Mais dès que vous entrez dans ces milieux-là, ça devient une réalité tranquille. Quoi. Une réalité tranquille, hein. C'est cela. Quoi. Oui, oui, il y a trésor derrière qui... Voilà, donc c'est que se maintenir, ce n'est pas facile. Souvent, on a besoin de recourir au diable dans les activités humaines. Mais quand ce sont des activités saines, Dieu aussi peut, Dieu nous soutient si on se confie en lui. Oui.
Oui,
oui, ça marche.
Oui, je voudrais aussi confirmer le truc que tu viens de dire, parce que j'ai, quand j'étais dans le milieu sportif, j'avais eu à discuter avec un prêtre qui préparait quand on avait toujours des matchs. Il y avait un prêtre qui venait faire des prières et tout pour l'équipe quand on jouait. Et il y a un moment, il a dévoilé un truc en disant que tu peux avoir, naître avec un talent, comme tu veux, mais avoir un succès et rester toujours au top dans ton succès, il faut que au niveau de toi, que tu puisses servir de choses, ou tu t'engages avec ton talent à briller, à être dans le mal. Donc le diable prend ton talent uniquement pour que tu sers le mal, ou bien tu t'engages à faire le bien, mais avec la capacité que tu as. Donc si tu es footballeur, tu t'engages par exemple à servir Dieu, Dieu va servir de ton talent à te garder au niveau pour le servir dans la lumière, mais Satan aussi peut prendre le même talent aussi, te garder au niveau pour faire le mal. Donc à un moment, si tu commences sans fétiche, tu finiras toujours par y toucher, par prendre une décision, soit aller à servir le mal, soit à faire le bien avec quelque chose que tu avais commencé comme ça,
mais,
à progresser au fur et à
mesure. Mais comme il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas des activités que Dieu peut soutenir, donc en général, les gens vont vers le diable. C'est ça la réalité. Oui, oui. Il y a Emmanuel.
Une question par rapport à ce qu'on dit. Est-ce que l'homme, naturellement, ne peut pas être dans le contentement? Parce que je me rends compte qu'à chaque fois, l'homme, enfin, on veut toujours plus. Naturellement, on ne peut pas être dans le contentement. C'est un don de Dieu, le contentement.
C'est le péché d'Adam. Adam a voulu, il n'a pas été dans le contentement. Il a voulu être comme Dieu. Donc nous tous, nous sommes des descendants d'Adam. Donc nous avons le même problème. Nous voulons toujours le pouvoir, le succès. Bref, c'est considéré comme Dieu. C'est notre problème. Donc, et le diable le sait. Et donc, il nous propose toujours des circuits pour faire comme Adam toujours. Il répète ça. C'est pourquoi, donc, comme il le sait, donc, il crée le dopage, il crée les choses. Parfois, il y a des gens, lui-même, il n'aurait rien fait. Mais on va le pousser, mais tu es fort comme ça, on va te soutenir. Voilà. Donc, c'est ça. Lui-même, il n'aurait rien fait. Donc, c'est cela. C'est ça la réalité.
D'accord.
Le contentement, ça vient du Seigneur quand on s'est converti.
Okay.
Déjà, même dans le christianisme, on trouve des gens, il va à tout prix un poste. Il va à tout prix prêcher. Il va à tout prix chanter. Il veut toucher le micro. Donc, alors qu'il est chrétien, et bien, combien plus votre raison dans le monde? Oui?
Une question par rapport...
Tu peux parler fort, s'il te plaît.
Une question par rapport au pouvoir, parce que il y a des fois, je me pose des questions, je dis, comme la Bible dit, tout pouvoir vient de Dieu. Je vais regarder...
Toute autorité.
Toute autorité plutôt vient de Dieu. Mais non, comme des présidents, les gens qui sont au pouvoir, c'est Dieu qui les place, non?
En quelque sorte, puisque rien ne peut se faire sans que Dieu ne le permette. Donc c'est lui qui les place en quelque sorte.
Mais comment ces gens-là, au moment où ils sont au pouvoir, ils n'aiment plus abandonner leur place, ils n'aiment plus laisser, parce que ils ont tellement la soif de rester là, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour garder le pouvoir, quoi, de garder la place.
Oui, oui, parce que c'est ça que donne le pouvoir. Le pouvoir donne envie de garder jusqu'à jamais. On se prend pour Dieu. Est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu peux imaginer que Dieu dise « je ne suis plus Dieu » Voilà. Donc du moment que ces gens-là se prennent pour Dieu, ils voudront jamais que ça cesse.
Mais parce que Dieu, lui, il est Dieu. Mais eux, ils ne sont pas des dieux.
Mais ils se prennent pour Dieu. Ils se prennent pour Dieu. Mais je crois que on a préparé toute une série d'émissions. On va préparer toute une série d'émissions pour expliquer ce qui se passe dans ces gens-là. Voilà. Parce que avec le temps, le chrétien va se retrouver dans un monde où il y a trop de mauvais. Et si il ne comprend pas le mécanisme de la méchanceté, il risque lui aussi de devenir méchant pour répondre aux méchants. Donc on va essayer d'expliquer ça pour qu'on comprenne ce qui arrive dans la tête de ces gens-là. Donc ils se prennent pour Dieu et c'est tout. Hein.
Parce que quand j'avais regardé une émission à la télé par rapport au président, tous les présidents passés de la France, de Mitterrand et tout, et j'ai suivi, y en a d'autres qui étaient vraiment malades. Mais ils ne voulaient pas
que les gens sachent parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Oui, oui.
Et moi, j'ai trouvé ça vraiment injuste. Moi, j'ai dit, quand on dit que non, toute autorité vient des dieux, là, ce n'est pas des dieux parce qu'il est malade, il ne veut pas lâcher. C'est quelque chose.
Mais ça vient de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a établi.
Mais au moment où il est malade, il veut toujours se présenter.
Mais oui, mais c'est parce que le pays est mauvais. Dieu laisse des gens mauvais aussi le diriger. Il a été voté, non? Voilà, c'est ça. Ok.
Moi, je voulais savoir, ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des personnes, je ne sais pas, comme les Linda Randall, les Gellers, tout ça, qui sont des groupes qui sont quand même connus. Bon, moi, je ne connaissais pas, mais quand je regarde sur Internet, ils sont quand même connus. À ce qu'un jour, boum, ils tombent.
Pourquoi?
Ben, je ne sais pas, puisqu'ils ont quand même du succès.
Non, oui, si c'est soutenu par Dieu, c'est bien.
Oui, mais ils ont quand même beaucoup de succès.
Oh, mais il n'y a pas de mal si c'est soutenu par Dieu. Donc, c'est tant que c'est un succès lié à ce qu'ils font de bien, c'est une bonne chose. Ok. Oui.
Si c'est Dieu qui établit toute autorité, ça veut dire que lui, il les soutient, les autorités?
Pas forcément.
Bah, par exemple, Barack Obama.
Oui.
Lui, c'est un sataniste, là.
Oui.
Bah, pourquoi il met Barack Obama si c'est un sataniste?
Ah, mais il y en a beaucoup. Même Hitler, c'était pire que Barack Obama.
Oui, bah pourquoi?
Pourquoi je n'ai pas compris.
Bah, pourquoi il met des gens qui aiment Satan?
Parce que le monde est mauvais. Pour mettre quelqu'un, tu le prends dans un panier. Si tu veux préparer les pommes de terre, mais tu vas les prendre dans un panier. Mais si les pommes de terre sont pourries, mais tu sais que tu vas sortir, va être pourri. Tu ne vas pas dire que je vais sortir des pommes de terre saines d'un panier où les pommes de terre sont pourries. Et donc les dirigeants là,
oui, mais lui,
Dieu les prend dans un monde qui est pourri.
Oui, mais Dieu, il a toute puissance. C'est-à-dire que lui, il peut mettre la pomme de terre qui est saine.
Diriger un monde qui est pourri. Ah, c'est ça. Parce que quand tu deviens président, il faut aller, quand il y a un problème, dans un bâtiment catholique. Quand tu deviens président, il y a la boxe. Parce qu'un chrétien normal ne peut pas supporter la boxe. Donc il va éliminer... Oui, des gens qui se tapent sans raison. Donc un chrétien... Bah, donc il y a tout ça...
Non, mais pas mettre un chrétien, mais quelqu'un qui est entre les deux, quoi. Enfin,
ah, mais justement, c'est ce qu'on explique. On ne peut pas être entre les deux. Donc à un certain moment, il faut choisir. Il n'y a pas d'entre les deux. Voilà. À un certain moment, il faut choisir. C'est ça, quoi. Il n'y a pas d'entre les deux.
Ça veut dire que Dieu, il ne mettra jamais un chrétien dans un pouvoir?
Ah non, pas du tout. On n'a pas dit ça. On a dit que c'est lié à la configuration du pays. Si le pays... souvenez-vous de l'histoire de Sodome et Gomorre. Dieu disait à Abraham, s'il y a 50 justes, d'accord, je ne détruis pas.
Oui, mais dans la
France, il y a, voilà. Donc, dans le pays, en fonction du nombre de justes qui est là, eh bien, c'est là que ça peut sortir un président juste ou pas. C'est lié au nombre de justes dans le pays. Voilà.
Ah, ça veut dire qu'en Amérique, ils sont tellement pas justes que lui...
Ah oui, il y a peu de justes, oui. C'est pas qu'en Amérique, hein. Au Maroc, partout.
Hein. Mais c'est par rapport à la population.
Oui, mais c'est partout. La Bible le dit. Là, j'ai le chemin qui mène à la perdition étroit. Donc, les pays où il y a beaucoup de justes, c'est rare. Quoi. C'est rare. OK.
Oui, et c'était juste pour reprendre, parce que tu as pris l'exemple d'Hitler, et je trouve que c'est un exemple qui est quand même assez pertinent, parce que cet homme-là a voulu venir au pouvoir la première fois par la force. Il n'a pas réussi. Mais quand il est arrivé la deuxième fois au pouvoir et qu'il a fait son carnage, c'est parce que la population, en fait, l'y a placé.
Voilà.
Donc ça rejoint ce que tu dis.
Il a séduit la population. Et Dieu va faire quoi? Si vous voulez... On a demandé Jésus au Barabbas. Le peuple a dit Barabbas. Bon, c'est lui que vous voulez, mais je vous le sors. C'est cela. Hein? Oui, oui. Qui a le micro? Vas-y.
Et donc, ça veut dire que...
C'est pas...
Par exemple, même si c'est par rapport à la population... Ça veut dire que Dieu, il aurait permis que Hitler soit au pouvoir en sachant pertinemment qu'il allait exterminer tous les Juifs.
Il n'a pas exterminé tous les Juifs.
Bah, presque. Enfin,
il a exterminé beaucoup de Juifs, 6 millions. Oui, oui, mais c'est-à-dire que c'est ce que nous voulons parce que Dieu nous a créés libres. Si lui nous appelle à lui, nous, on ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'inverse de Dieu. C'est simple, hein?
Non, mais je ne comprends pas pourquoi... Il aurait permis qu'Hitler, parce que je veux dire, il y avait quand même beaucoup d'autres personnes qui se sont présentées. Et pourquoi Hitler? Pourquoi Dieu a permis...
Parce que le peuple voulait Hitler, comme il voulait Barabbas. Voilà. Vous savez, vous le voulez lui, ben prenez-le. C'est ça.
Mais Hitler, enfin, moi je comprends pas pourquoi il a tué les Juifs.
Ah bon? Pourquoi? Tu ne comprends pas. Mais il faut lire l'histoire alors.
Non.
Ah voilà.
Pourquoi Dieu l'a laissé faire?
Ah, pourquoi il l'a laissé faire? Je le redis encore. Si Dieu vient à toi et que tu ne veux pas de lui, tu prends le contraire de Dieu. Oui. Il n'y a pas de neutralité.
Mais peut-être qu'il ne connaissait pas Dieu, lui.
Pardon?
Peut-être qu'il connaît.
Je ne parle pas d'Hitler, je parle des autres. Ta question, c'est pourquoi Hitler est devenu mauvais comme ça?
Non.
Hein?
Pourquoi les Juifs ils sont morts alors que c'est le peuple de Dieu?
Ah, mais Dieu châtie bien ceux qu'il aime. Hein.
Mais pas au point de mourir.
Si, si, jusqu'au point de mourir parfois.
Oui, mais après, il ne laisse pas de chance.
Pardon, si. Quand tu es vivant, tu as l'occasion de te convertir, de changer. Mais vient un temps où tu n'as pas saisi ton temps et tu n'as pas saisi ton opportunité et tu finis par subir la mort. Mais de toute façon, on mourra, nous tous.
Mais il y a des enfants, ils ont été tués.
Mais il y a des enfants qui ont été tués. Mais nous tous, on mourra. Donc ces enfants-là allaient mourir un jour.
Oui, peut-être voilà. Qu'eux, ils n'ont pas eu le temps de connaître Jésus.
Non, en ce qui concerne les gens qui... Toi, tu ne connais pas. Donc tout ce qu'on ne connaît pas, on laisse entre les mains de Dieu. Nous, on ne peut juger que ce qu'on connaît. Ceux à qui on a prêché et on a vu leur réaction, on ne peut les juger. Mais les gens à qui nous, on n'a pas prêché, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur vie, comment Dieu a eu une relation avec eux, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est le jugement appartient à Dieu seul. C'est dit dans 1 Corinthiens 5.
Ça veut dire que ça... Dieu l'a laissé faire Hitler, en fait.
Ah oui, il a laissé faire Hitler. Hein. Comme il nous laisse faire, là. Hein. Il a laissé faire Hitler. Hein. Les gens voulaient Hitler, il a laissé faire. Donc, il ne va pas s'imposer sur les gens. Dieu nous a créés libres, donc il faut s'en souvenir. Nous ayant créés libres, alors nos choix... Nous subirons les conséquences de nos propres choix parce que lui nous a créés libres. Parce que si on n'était pas libre, donc il n'y a pas de vraie relation avec lui. Pour une vraie relation, il faut la liberté. S'il n'y a pas la liberté, il n'y a pas de vraie relation. C'est cela. Oui.
Il n'a pas permis Hitler pour que les Juifs repartent en Israël.
Pardon?
Il n'a pas permis Hitler pour que les Juifs repartent en Israël.
Non, après, il a utilisé la situation pour ramener les Juifs chez eux, mais il ne va pas tuer 6 millions pour les ramener. Donc, il a utilisé cette situation-là pour les ramener chez eux. Mais attendez, il faut savoir qu'avant qu'on tue 6 millions, on a commencé par les injurier et faire des affiches contre eux. Et ils pouvaient partir sans mourir. Parce que là, vous dites, Dieu a permis qu'ils tuent 6 millions, mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé par des affiches. Vous êtes, on les considérait comme des parasites. On les appelait des parasites. On les injuriait. On les a classifiés comme étant des microbes. Donc on les appelait même des microbes. Mais ils n'ont pas voulu quitter l'Allemagne, préférant le confort de l'Allemagne. Ce n'est pas la faute de Dieu. Donc ils avaient tous les signes, tout ce qu'il fallait pour comprendre que Hitler veut les éliminer. Ils n'ont pas voulu quitter. Donc ce n'est pas la faute de Dieu. Oui.
Mais enfin, par rapport à ça, je ne suis pas d'accord. Parce que ça veut dire que, par exemple, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui nous dit qui met des affiches partout et qui nous dit « Oui, les chrétiens, vous êtes des microbes, vous dérangez », ce n'est pas pour autant qu'on va tous partir.
Non, la différence entre nous et les autres, c'est que nous, les chrétiens, nous suivons que la volonté de Dieu. Bah, mais tu ne vas pas parler aux athées de suivre que la volonté de Dieu. Ils ne croient même pas en Dieu. Nous, les chrétiens, nous suivons que la volonté de Dieu. Donc même si on est menacé et que Dieu nous dit de ne pas bouger, on ne bouge pas.
Bah, je suis d'accord, mais les Juifs, c'est peut-être dans cette optique-là qu'ils n'ont pas bougé non plus.
Ah, pas du tout, ils croient pas. La majorité des Juifs ne croient pas en Dieu. Ah oui. La majorité. Il n'y a qu'un petit pourcentage qui croit en Dieu. Quand je dis petit, c'est vraiment petit. Hein. Voilà, la majorité ne croit pas.
En Dieu ou en Jésus ?
En Dieu, je dis bien en Dieu. Je ne parle même pas de Jésus, en Dieu.
Ah, là, c'est les Juifs d'origine.
Oui, les Juifs d'origine. La majorité ne croit pas en Dieu. Donc, le peu d'agitation que vous voyez là, les gens en tenue là, ils sont très, très peu nombreux. Ils occupent un quartier, quelques quartiers. Hein. Mais la majorité ne croit pas. Voilà. Ok, donc on avait un autre sujet, mais bon, ça, c'est puisqu'on a un baptême. Donc, on va mettre ça pour la fois prochaine. Donc, nous allons inviter notre heureuse baptisée, future baptisée d'aujourd'hui, à nous dire pourquoi elle se fait baptiser malgré sa timidité. Ok.